7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment construire son projet professionnel? Si vous arrivez sur le marché du travail ou si vous avez envie de changer d'orientation professionnelle, quelles sont les bonnes questions à se poser? Comment enrichir son CV, utiliser son réseau? Parce que tout le monde a un réseau. Et les jeunes d'ailleurs souvent ne le savent pas, mais ils peuvent s'en servir. Alors comment se positionner aussi quand on est une femme dans un secteur plutôt masculin? Autant de questions qu'on va aborder avec nos invités. La jeune génération qui arrive sur le marché du travail va exercer plusieurs métiers durant sa vie professionnelle et même des métiers que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Bien sûr, les voisins et les voisines, vous nous appelez pour nous parler de vos parcours, de vos reconversions, de vos rêves, de vos désirs. 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp sur lequel vous pouvez également envoyer des messages écrits. Plus de messages audio, l'émission en direct vient de démarrer. Vous nous appelez directement et on dialogue tout simplement en direct. 33 1 84 22 71 71. Je vous présente nos invités. Marie-Camille Busneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du recrutement chez Assess First, qui est une société spécialisée dans le recrutement prédictif. Vous nous expliquerez ce que c'est. Christelle Defoucault, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes spécialiste des techniques de recherche d'emploi. On peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube, la chaîne du grand jeu de la recherche d'un job, parce que vous expliquez bien que c'est un jeu. Bon, ça, chacun voit comme il veut. Hein. Vous avez publié 50 erreurs à éviter pour trouver un job aux éditions Erol. Voilà, et je vous rappelle notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques commentaires sur nos réseaux sociaux. Philos, qui a 27 ans, il est congolais de RDC, il est parti travailler à Luanda. En Angola, un pays lusophone. En RDC, nous dit Philos, les réalités professionnelles sont très différentes par rapport au profil académique. Moi, je suis ingénieur, agronome de formation. Je suis devenu enseignant de biologie et chimie. Je souhaite retourner dans mon domaine. Il n'y a pas d'opportunité. Du coup, je suis installé à Luanda depuis 3 mois en tant que prof dans un collège francophone. Mais j'ai déjà des projets en vue pour travailler dans mon domaine. Voilà, bah, il a déjà compris une bonne partie des solutions, non, Philos, à votre avis? Marie-Camille Busneau, Christelle Defoucault.
Alors juste, Philos, je voulais dire, moi aussi je suis ingénieure agro à la base, voilà, mon parcours a fait que, voilà, durant mes expériences, les opportunités que j'ai pu avoir et le cheminement que j'ai eu, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une start-up aujourd'hui sur une fonction d'account manager, donc rien à voir avec ce à quoi je me destinais au départ, mais tout aussi épanouissant.
Donc, account manager, qu'est-ce que c'est?
Alors account manager, l'idée c'est le commercial qui accompagne un portefeuille de clients, qui les aide dans l'utilisation des outils, qui assure la fidélisation d'un portefeuille de clients et puis ensuite qui essaye de faire grossir les comptes. Voilà.
Et à l'origine, vous étiez ingénieur agronome.
Exactement.
élargir son univers géographique, ça peut commencer par être une très bonne solution pour vous, Christelle Defoucault.
Je dirais qu'il faut élargir son univers, tout son univers, que ce soit l'univers géographique, l'univers relationnel, ce qui va faire en sorte qu'on réussisse finalement à aller vers son projet, parce qu'il avait un projet initial, finalement, Philos, qu'il aimerait finaliser. Ce qu'il va l'aider, c'est de essayer de se renseigner le plus possible, d'enquêter, rechercher. Plus on ouvre son regard, ses yeux, son esprit, plus il y a de chances qu'on puisse trouver une opportunité qui nous convienne.
C'est ça. Il a changé de pays, il n'a pas encore changé de métier, retrouvé le métier auquel il aspire, mais c'est en bonne voie. Voilà. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On prend un premier auditeur au téléphone. Carlin nous appelle de Libreville, au Gabon. Bonjour Carlin. Carlin, êtes-vous en ligne avec nous? Allô, allô? Carlin, bon, on l'avait en ligne il y a quelques secondes. Ce n'est plus le cas, on va essayer de le rappeler. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Marie-Camille Busneau, il y a beaucoup d'étudiants à Bac plus 2, à Bac plus 3, voire plus, qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire vraiment. Comment on fait un bilan? Comment on choisit un peu mieux le chemin vers lequel on veut se diriger?
Alors, effectivement, souvent, quand les étudiants ont poursuivi une voie, ils l'ont un peu poursuivi de manière un petit peu généraliste, en se disant, je prends la voie la plus générale pour éviter de faire des choix. Et puis, au bout d'un moment, force est de constater qu'on est obligé de faire un choix. Moi, j'ai accompagné des étudiants chez HEC, où j'étais coach carrière. Et l'idée, c'est qu'on travaille avec les étudiants sur plusieurs étapes pour construire son projet professionnel. La première étape, c'était vraiment apprendre à se connaître. D'abord, identifier qui je suis, quels sont mes talents, quels sont mes leviers de motivation, quelles sont mes expériences aussi, les réalisations probantes que j'ai pu avoir, et voilà, quelles sont mes envies. Donc, je pars d'abord de qui je suis. Ensuite, l'idée, c'est effectivement d'aller explorer le champ des possibles dont on parlait tout à l'heure. Donc, le champ des possibles, c'est quel type d'entreprise il peut exister, dans quelle taille, quel type de fonction il peut y avoir, sur quel type de périmètre, avec quelles conditions de travail. Et pour ça, il faut aller à la rencontre de personnes, il faut aller se renseigner, lire. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages, de sites internet, de vidéos métiers qui sont disponibles en ligne déjà. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'aller explorer son réseau et de commencer à le créer.
Est-ce qu'il y a parfois, je dirais, le syndrome du bon étudiant, l'étudiant brillant qui est dans une bonne formation, donc il a pas mal de choix possibles. Du coup, il ne sait pas ce qu'il veut faire.
Alors ça, on le voit, et il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et puis, on a aussi le syndrome de l'étudiant qui va idéaliser. Parce que ce que disait Marie-Camille tout à l'heure est très juste, c'est qu'il faut que l'étudiant se pose les bonnes questions sur qui il est, ce qu'il aimerait. Mais après, il faut qu'il vérifie bien que ce dont il rêve est aussi réalisable par rapport à la réalité du marché. Et ce qu'on peut observer dans des étudiants qui vont suivre en effet des parcours de grandes écoles, c'est qu'ils pensent que tout est possible. Et en fait, à la fin de leur parcours, ils se rendent compte que tout n'est pas obligatoirement possible et c'est absolument nécessaire de vraiment bien se renseigner sur la réalité. La réalité du marché est essentielle.
Y compris aussi la réalité de sa propre personnalité. Hein.
Exactement.
On va en reparler, bien sûr. Carlin, on a retrouvé Carlin à Libreville, au Gabon. Bonjour Carlin.
Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie-Camille. Bonjour Christelle.
Bonjour Carlin.
Bonjour. Carlin, vous avez 25 ans. Vous ne savez pas forcément très bien où vous en êtes, alors vous avez énormément de compétences. Racontez-nous votre parcours, parce qu'il est déjà important, votre parcours à 25 ans.
Oui, en fait, moi j'ai toujours voulu travailler dans la diplomatie, mais après mon bac, voilà, j'ai fait des vœux, et le vœu de la diplomatie n'a pas été retenu. Mmh. Alors je me suis mis à étudier le droit des contrats,
oui.
Et je suis diplômé en droit de contrat.
D'accord, donc vous avez un master en droit des contrats, c'est ça?
Oui, c'est cela.
Ouais.
Après, j'ai eu des difficultés à trouver un emploi. Mmh. Alors, j'ai fait le concours de la fonction publique. Mmh. J'ai été reçu au concours. Je suis entré dans l'école d'administration. Et j'ai eu mon diplôme en gestion financière. Mmh. Mais sauf que là, mon poste n'arrive pas, ça fait quasiment un an. Alors, je me suis mis dans une autre formation. Pour cette fois-ci, un graduate en gestion de paix.
Oui, et cette voilà, formation, vous la faites en ligne, hein, pour être...
Oui, je la fais en ligne. Mais après, je dois passer l'examen en France. Donc, ce qui est sûr, j'ai en France passé l'examen d'ici.
D'accord. En fait, gestionnaire de paix, donc ça, c'est plutôt ressources humaines,
hein? Oui, c'est cela, oui.
Ah oui, c'est très éloigné de ce que vous vouliez faire au départ, la diplomatie.
Ah oui, très éloigné, mais c'est la réalité, en fait.
Alors, votre question, Carlin?
La question, c'est, avec tous ces diplômes, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai encore le profit pour la diplomatie ou c'est trop tard? Avec un diplôme en droit, un diplôme en gestion financière, en gestion de paix.
Carlin, vous avez 25 ans. Rien n'est trop tard. Carlin, c'est le début de l'histoire.
Mais c'est assez difficile dans mon pays. Hein. On parle d'un politicien, c'est assez compliqué.
Christelle de Foucault.
Je dirais la même chose que vous. Je dirais que vous avez un très, très beau parcours en termes d'études. À votre âge, un parcours très, très large. Et ça peut vous amener vers la diplomatie parce que justement, un diplomate, c'est quelqu'un qui va pouvoir prendre de la hauteur de vue, qui va avoir une connaissance de beaucoup de choses. Ce que vous êtes en train de faire montre que vous avez aussi une très grande ouverture d'esprit, une forte adaptabilité. Après, je dirais, au-delà de toutes vos études, ce qui va être important pour vous, c'est de rencontrer des gens et de rencontrer les bonnes personnes qui vont vous amener vers votre rêve. Et je ne sais pas si vous avez commencé à le faire, mais essayez vraiment de développer votre réseau professionnel. Utilisez, je ne sais pas si vous êtes sur le réseau professionnel LinkedIn, il y a beaucoup, beaucoup d'Africains qui le sont. C'est un vrai réseau qui va vous ouvrir des portes. Et avec un tel parcours, moi, à 25 ans, personnellement, je suis très confiante. Donc, il faut que vous continuiez à croire en votre rêve, mais que vous vous donniez les moyens, au-delà de vos études, d'aller vers les gens. Parce que la diplomatie, c'est ça, c'est rencontrer des gens.
Carlin, vous êtes rapproché d'organisations internationales, parce que la diplomatie, ça n'est pas que la fonction publique rattachée à son propre pays. Donc, un parcours à l'international avec des stages, par exemple, comme vous étudiez en ligne et que vous avez l'air assez débrouillard, hein, vous pourriez être en stage dans une organisation internationale, dans un pays voisin, par exemple, en même temps que votre formation en ligne.
Oui, 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 j'y ai pensé, mais j'ai pas encore commencé le processus, mais j'y ai pensé.
Alors, on est bien d'accord que, finalement, Marie-Camille Busneau, hein, à partir du moment où on a bien démarré son parcours d'études, même si on n'est pas tout à fait dans la filière que l'on souhaite, on peut rebifurquer assez facilement aujourd'hui.
Tout à fait. Et finalement, c'est ce qu'on observe de plus en plus. On n'est plus trop sur des projets professionnels à long terme, comme ça a pu être par le passé. Maintenant, on est plutôt à moyen, voire court terme. Les jeunes se projettent sur les 4 prochaines années et puis après, on verra bien. Et de toute façon, c'est vrai que les métiers évoluent très vite aujourd'hui. Donc, c'est tant mieux qu'on évolue aussi, nous, dans ce sens-là. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est toujours rester à l'écoute des opportunités, bien rester aussi, faire un bilan sur soi régulièrement, pour se dire aujourd'hui là je suis sur tel poste, est-ce que je suis heureux ou pas, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, qu'est-ce que j'ai envie de bouger, et puis après aller explorer le champ des possibles.
Carlin, vous ne nous avez pas dit pourquoi vous tenez tant à travailler dans la diplomatie dans le fond.
Oui, dans le fond en fait c'est un rêve d'enfant, hein. J'ai toujours été omnibulé, on va dire, par la diplomatie.
Oui, mais comment il s'est bâti ce rêve d'enfant, à partir de quelles images?
Bon, d'abord, j'aimais bien un personnage. C'est le gamin qui est décédé là, qui était secrétaire général de l'ONU. J'aimais bien ce personnage, j'ai lu son parcours et voilà, j'ai voulu ressembler à Kofi Annan.
Donc c'est ça, c'est à partir d'une figure finalement, une figure que vous avez trouvée inspirante. Parce que je vous posais cette question parce que Christelle de Foucault, est-ce que parfois on n'a pas tendance à s'accrocher à quelque chose qu'on a construit mais qui ne repose pas tout à fait forcément sur un raisonnement, sur des choses adaptées à la réalité d'aujourd'hui?
Alors c'est vrai que dans ce que dit Carlin, il est parti de son cœur et de son rêve d'enfant, mais par contre il a construit, puisqu'il est en train de, en se formant, il est en train d'acquérir beaucoup de compétences qui vont lui ouvrir des portes. Mais justement Carlin, comme vous disiez que c'est un homme qui vous a donné envie d'aller vers ce métier, moi je vous conseillerais de vous tourner vers d'autres hommes. Je suis persuadée que si vous approchez des gens, des entreprises, vous identifiez des personnes de votre pays qui vous font rêver, identifiez des personnes et essayez d'en faire vos mentors. Il y a de nombreux professionnels qui sont seniors, moi c'est mon cas, j'ai 54 ans, qui vont aller aider des jeunes motivés, des jeunes dans lesquels ils croient. Et je pense que vous avez ce profil-là, vous avez ce profil à être repéré par un mentor.
Carlin, de toute façon, en attendant, hein, si vous vous dirigez vers les ressources humaines, vous pouvez aussi intégrer une grande entreprise internationale, hein, où là aussi, si vous êtes dans le commerce international, vous serez forcément dans un univers qui pourra se rapprocher des organisations internationales. Merci de nous avoir appelé, Carlin. Bonne chance, bon courage.
Merci et bon courage à l'émission.
Ouais, et bravo à vous en tout cas pour tout ce que vous avez déjà accompli à votre âge à 25 ans. Mamadou, à 25 ans également, il nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Mamadou.
Bonjour Madame Caroline.
Non, moi c'est Emmanuel, mais vous êtes le bienvenu. Hein. Ah. On est chez 7 milliards de voisins. Okay. On est chez 7 milliards, okay. Mamadou. Alors vous avez une licence en nutrition.
Oui, exactement. Ouais. Madame,
bravo déjà, bravo.
Ok. En fait, j'ai une licence en nutrition, mais je n'ai pas d'expérience professionnelle. Donc, du coup, j'ai du mal un peu à me vendre. J'aimerais savoir comment m'y prendre.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire exactement? Est-ce que c'est bien clair pour vous dans votre tête, Mamadou?
Exactement. J'aimerais évoluer dans le domaine de la santé. Donc, en fait, à l'hôpital.
D'accord. Vous souhaiteriez être concrètement nutritionniste dans un hôpital, c'est ça?
C'est ça, oui.
Est-ce qu'il existe des postes de nutritionniste dans les hôpitaux dans votre pays?
Ah oui, évidemment, bien sûr.
Et vous vous êtes rapproché de ces personnes-là?
Bon, j'ai tenté de me rapprocher d'eux, mais parce que j'ai pas d'expérience professionnelle, du coup j'ai du mal un peu à me vendre, j'ai du mal à me prendre.
Oui, mais quand vous dites j'ai tenté de me rapprocher, c'est pas des personnes, je veux dire, inatteignables, hein, on parle pas du président de la République là.
Ah oui. Ouais.
Donc concrètement, quand vous essayez de discuter avec ces personnes, qu'est-ce qu'elles vous répondent?
Bon, quand j'essaie de discuter avec ces personnes-là, elles me demandent si j'ai des expériences professionnelles.
Et vous avez demandé un stage, tout simplement?
Ah, exactement. Ils m'ont demandé un stage, mais je n'ai pas pu d'abord effectuer un stage.
Et pour quelle raison vous ne pouviez pas effectuer ce stage?
Bon, parce que j'ai pas eu où effectuer un stage.
D'accord, vous n'avez pas trouvé de place de stage. Bon, alors ça.
Exactement.
D'accord. Alors, comment on fait dans ces cas-là, Christelle de Foucault? Il y a un problème d'expérience professionnelle commun à beaucoup de jeunes.
Alors, c'est vrai qu'il y a un problème d'expérience professionnelle, mais c'est aussi dans la tête des jeunes. C'est-à-dire que moi, je le vois, beaucoup de jeunes me disent « Oh, mais comment je vais faire? J'ai un entretien dans 2 jours. Et si le recruteur me dit que je n'ai pas d'expérience professionnelle ?» En fait, il ne faut pas avoir honte de ne pas avoir d'expérience, puisque c'est normal quand on est jeune. Il y a toujours un moment où on est obligé de démarrer. Donc là, dans ce que vous exprimez, Mamadou, on sent que le frein vient aussi de vous, que vous n'êtes pas très à l'aise parce qu'il vous manque cette expérience. Moi, je pense qu'il faut que vous fonciez un peu plus. Vous avez dit que vous avez contacté 2 personnes, identifiez dans votre ville et dans les alentours tous les hôpitaux, toutes les cliniques et je dirais aller frapper aux portes.
Et les associations aussi,
les
faire
associations.
Du bénévolat pour faire de la sensibilisation à la nutrition, etc.
Toutes les associations qui sont dans l'univers de la santé, qui vont dans les villages, etc. En effet, peuvent être très intéressées par des profils comme le vôtre, les anciens élèves de votre école. Enfin, il faut cibler vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Je dirais que c'est le quantitatif là qui va fonctionner dans votre cas.
D'accord.
Je voulais juste rajouter quelque chose. Vous allez contacter ces personnes, les contactez pas tout de suite sous un angle « je demande un stage, je demande un emploi ». D'abord, juste une rencontre, on échange sur votre métier, j'aimerais en savoir plus sur votre métier, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites au quotidien, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer.
Ouais. Comme et on prépare bien son questionnaire,
voilà,
bien sûr.
Voilà, on prépare bien son questionnaire en amont, ça c'est sûr. Et du coup, vous allez créer un premier lien avec cette personne, peut-être qu'elle va vous demander aussi vous ce que vous faites, etc. À la fin, vous pouvez lui demander si elle a une autre personne à vous recommander à rencontrer. Et comme ça, petit à petit, vous allez créer votre réseau.
Mamadou, je suis sûre aussi que, je ne sais pas, vous avez de la famille au village, non, forcément. Est-ce que vous ne pouvez pas proposer de mener une petite enquête en zone rurale, auprès d'habitants? Pourquoi vous ne proposez pas des services gratuits dans un premier temps aussi?
Parce que ici, dans notre pays, c'est pas facile. Du coup, il y a pas les accès ne sont pas faciles.
Mais il y a forcément des associations et des ONG qui travaillent sur les questions de la nutrition aujourd'hui, qui ont peut-être besoin de jeunes, qui ont un bon contact avec le village, avec les zones rurales, avec les habitants. Parce que vous, en tant que jeune, vous avez une richesse, c'est que vous pouvez passer partout, vous pouvez avoir des contacts faciles avec les habitants, plus facilement probablement qu'un médecin, hein.
Et je vous rejoins complètement, Emmanuel et Marie-Camille aussi, dans ce sens-là. C'est-à-dire que, Mamadou, si vous proposez vos services, c'est-à-dire que si vous faites par exemple une étude pour votre pays sur ces sujets de nutrition, si vous allez dans les villages, si vous faites des interviews, vous avez peut-être un smartphone, vous pouvez filmer les gens. En tant que jeune, vous avez beaucoup de portes qui vont vous être ouvertes et vous avez aussi des outils que les seniors n'ont pas. À partir de cette étude, ça va vous permettre aussi de rentrer en contact, comme le disait Marie-Camille, avec des personnes sans leur demander demander un job ou un stage, mais en leur disant tout simplement que vous faites une étude sur la nutrition, sur telle problématique dans votre pays, et que comme la personne est un expert, est-ce qu'elle accepterait de vous rencontrer pour échanger avec vous.
Voilà, vous tournez des vidéos, vous allez au village, et puis ensuite vous proposez de montrer ces vidéos tout simplement à des nutritionnistes à Conakry. Vous allez intéresser, vous savez, hein. Vous êtes une richesse pour votre pays, Mamadou, mais il faut le savoir, et il faut surtout, il faut faire des propositions concrètes hein, aux plus âgés. Merci de nous avoir appelés. On prend une autre auditrice au 33 1 84 22 71 71. C'est un auditeur, pardon, c'est Anesh qui nous appelle de Béthune, dans le nord de la France. Bonjour Anesh.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute, vous êtes en direct Anesh.
Oui, je suis étudiant en master de génie électrique à l'université d'Artois. Je suis actuellement à la recherche d'un stage, vu que je finis la partie théorique de ma formation.
Oui.
Mais j'ai du mal à trouver un stage. J'ai passé des entretiens, mais je n'ai pas reçu de réponse favorable.
Oui.
Et je suis tombé sur une entreprise qui m'a accepté, mais ce n'était pas mon souhait.
Oui.
Mon premier souhait, donc.
Oui.
Donc, j'ai aussi, dans ce domaine, eu une petite expérience. Puisque j'ai effectué des stages dans mon pays d'origine. Je voulais aussi énumérer que...
C'est le Congo-Brazza, hein, votre pays d'origine, je crois.
Exactement. Donc, je reviens du Congo-Brazza, j'ai un diplôme d'ingénieur en électromécanique.
Ouais.
Donc, au Congo, j'ai eu la possibilité dans ce domaine, dans le domaine d'études d'électricité, parce que moi, je connais bien mon projet professionnel, je sais bien ce que je veux faire en fonction de mes compétences. Donc, dans le monde de l'emploi, et plutôt quand je suis à la recherche de mon stage, souvent on me pose cette question, elle revient toujours. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur dans mon pays et je suis revenu ici en France pour recommencer.
Oui, c'est ça, pour avoir un diplôme en France. Alors, si j'ai bien compris, Anesh, vous êtes vraiment à l'inverse du jeune qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Vous savez trop bien ce que vous voulez faire. Vous avez une entreprise en vue qui vous accepte en stage, mais ce n'est pas celle que vous aviez ciblée.
Exact, oui.
C'est ça, hein.
Donc moi, ma question principale, en fait, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce qu'il faudrait faire dans un pays comme la France, puisque je suis étudiant étranger, pour pouvoir créer son réseau, contacter et proposer son profil aux gens.
Ouais, bah vous posez une bonne question, en effet. Alors, qui veut répondre, Marie-Camille Busseneau?
Je dirais là, vous êtes dans une entreprise qui ne vous plaît pas forcément aujourd'hui. Mais il faut quand même saisir l'opportunité, se dire vous êtes là pour un temps défini pour ce stage. Donc, surtout, gardez les yeux bien grands ouverts. Vous allez interagir avec des partenaires, avec des clients. Donc, là-dessus, il faut se montrer sous son meilleur jour, j'ai envie de dire, s'intéresser à eux, savoir dans quelles entreprises ils travaillent, quelle est la culture une entreprise associée, est-ce que vous, elle vous intéresserait davantage? Et puis, commencer à tisser votre réseau comme ça, progressivement.
C'est ça, on est d'accord que le premier stage, si c'est pas le bon, c'est pas grave, hein, c'est pas l'affaire d'une vie.
Ce n'est pas grave, Anesh, et puis c'est aussi le cas pour parfois les premiers emplois. Il faut accepter ce qu'on appelle un stage tremplin ou un job tremplin qui vous permet de mettre un pied dans l'entreprise et qui vous ouvre des portes, comme vous l'a décrit Marie-Camille. Mais dans ces cas-là, il faut que vous soyez vraiment extrêmement ouvert et que vous fassiez du réseau. Le réseau, c'est ce qui va vous ouvrir ensuite toutes les autres portes.
Ça veut dire donc vraiment concrètement se dire qui j'ai rencontré cette semaine, qui je vais recontacter, avec qui je vais déjeuner, etc. Hein.
Exactement, identifier toutes les personnes. Et je vous invite, si vous n'y êtes pas encore une fois, à aller sur le réseau LinkedIn. Je ne fais pas partie de cette entreprise, mais c'est un vrai moyen de trouver des jobs et des stages et de rentrer en contact à peu près avec n'importe qui dans n'importe quelle entreprise.
Anesh, en tout cas, vous êtes plutôt bien partie. Hein. Vous êtes diplômée. Vous êtes. Est-ce que vous êtes sur LinkedIn à l'heure actuelle, Anesh?
Oui, je suis sur LinkedIn.
D'accord. Ok. Est-ce que ça vous convient, les réponses qu'on vous donne? Vous voyez bien comment, effectivement, vous pouvez rebondir à partir d'une première expérience qui n'est pas celle que vous souhaitiez?
Oui, parce que l'une de mes qualités, c'est cette facilité d'adaptation que j'ai.
Ouais.
Mais moi, je suis vraiment, étant donné que le monde de l'emploi ici en France est un monde compétitif, vous savez, il y a des universités d'ingénieurs. Moi, je vais sortir d'une université. Donc, je vais bien continuer dans un domaine où je me sens plus à l'aise et mes compétences sont vraiment fondamentales. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je veux continuer en tant qu'ingénieur d'études d'électricité. Mais dans des entretiens, et souvent je suis confronté avec les étudiants des écoles d'ingénieurs, donc jusqu'à présent les réponses ne sont pas favorables.
Donc ça veut dire, une petite question à Neige, ça veut dire que vous passez beaucoup d'entretiens?
Oui, j'ai déjà passé au moins 5 entretiens.
Donc ça, c'est très positif parce que vous n'avez pas changé ni votre CV, ni votre manière d'écrire vos mails de motivation, c'est que vous plaisez. La seule chose, c'est que si ce n'est pas concluant dans les entretiens, ça peut être aussi par rapport à des choses que vous dites ou que vous ne dites pas. Donc il y a peut-être il faut peut-être vous poser aussi des questions par rapport à la manière dont se passent les entretiens et peut-être changer votre approche. Parce que c'est très positif d'avoir des entretiens. Il faut savoir qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Vous êtes dans une autre phase, vous êtes dans une phase où vous intéressez l'entreprise, mais elle ne vous prend pas. Et ce n'est pas obligatoirement lié à l'entreprise, ça peut être lié à vous, à quelque chose que vous dites durant l'entretien.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Anèche. On a énormément d'auditeurs qui souhaitent interroger Marie-Camille Busneau et Christelle Defoucault. Comment construire son projet professionnel? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, quel que soit votre âge d'ailleurs, qu'on soit en fin d'études et qu'on démarre et qu'on réfléchisse un peu à la façon dont on va se positionner sur le marché du travail, ou que l'on souhaite complètement changer d'horizon, puisque nous serons tous amenés à le faire plusieurs fois dans une vie professionnelle.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
On est en ligne avec Arlette qui nous appelle de Kinshasa en RDC. Bonjour Arlette.
Bonjour Emmanuel.
Arlette, vous avez 37 ans, licence de traduction.
Oui.
Alors, racontez-nous, où en êtes-vous? Quelles sont les questions que vous vous posez?
Bon, moi je ne me pose pas de questions. Je suivais par rapport au sujet du jour. Bon, moi, je me dis que, comme on a été à l'université, on peut s'adapter dans tout autre domaine.
Oui.
Comme moi, par exemple, je ne travaille pas dans le domaine de la traduction. Mais ça ne m'a pas empêché de m'épanouir dans le domaine dans lequel je travaille. Parce que je me dis qu'on s'adapte parce qu'on a été à l'université. Oui, c'est vrai que ça dépend aussi de la passion. Peut-être que dans le domaine où on travaille, on n'est pas passionné, on n'a pas aimé, bon...
Et alors,
moi, j'aime ce que je fais.
Qu'est-ce que vous faites exactement aujourd'hui, Arlette?
Je suis dans l'administration publique.
Oui.
Et bon, ça m'a appris aussi d'apprendre comment est-ce que ça s'est passé. C'est vrai qu'au départ, je ne voulais pas travailler dans la fonction publique, vu les réalités de mon pays.
Oui.
Mais en me retrouvant là-bas, bon, ça m'a plu.
Non, mais votre témoignage est vraiment riche d'expérience pour les jeunes qui nous écoutent, parce qu'effectivement, il ne faut pas se fermer de porte au départ. Hein. Donc, finalement, vous vous êtes épanoui dans un secteur que vous n'imagineriez pas au départ, que vous pouviez vous y épanouir finalement, Arlette. Hein.
Oui, c'est ça.
Ouais. Je vais vous lire le message de... Je vais vous lire le message d'un de vos compatriotes, Arlette, peut-être que vous aurez une réaction. Toussaint, qui est à Bukavu, donc il n'est pas dans la même ville que vous, il est en RDC également. Il est étudiant en première année en licence en économie d'environnement de l'université évangélique en Afrique. Et sa question, comme il dit si bien, dans un pays comme le mien, où plus de 70% des jeunes diplômés n'ont pas d'emploi, se livrent à d'autres travaux qui n'ont aucun rapport avec les études qu'ils ont faites, dans un pays où on sélectionne non pas par compétences, mais par relations amicales, familiales, de milieu, où les étudiants n'ont pas d'ambition parce qu'ils sont au chômage, 3 voire 5 ans après leurs études, je voudrais savoir dans un tel environnement comment on peut construire son projet professionnel. Qu'est-ce que vous répondriez, Arlette, qui avait quelques années de plus que Toussaint?
Oui, Toussaint a raison. Effectivement, c'est la réalité qu'on vit dans le pays. Mais bon, il y en a aussi qui s'en sortent. Parce qu'il ne faut pas seulement croiser les bras, il ne faut pas se fermer les portes, comme vous aviez dit. Il faut bien foncer. Tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans ce milieu de travail, ici, ils n'ont pas seulement retrouvé parce qu'étant ayant des relations. Non. Parce que là, ils se ferment déjà une porte. Ils peuvent bien foncer, ils peuvent bien chercher, parce qu'il y en a qui en ont trouvé sans avoir eu un oncle ou un ami dans l'endroit en question.
Est-ce que c'est votre cas, Arlette?
Non, ce n'est pas mon cas.
C'est-à-dire?
Non, je n'ai pas trouvé de travail par rapport à une relation.
D'accord.
Non.
Vous avez trouvé par vous-même?
Oui, par moi-même.
Par vos rencontres toutes seules?
Oui.
Merci Arlette de nous avoir appelés. Ninel nous appelle. Alors Arlette, c'est intéressant parce que vous nous disiez que vous aviez une licence de traduction. Ninel, vous êtes à Yaoundé au Cameroun et vous avez également un diplôme en traduction anglais-espagnol. Bonjour Ninel.
Bonjour, c'est Mia de Voisin.
Ninel, vous avez un parcours très riche avec plusieurs expériences et vous, du coup, vous vous posez une question bien précise. On vous écoute, Ninel.
En fait, je suis paraplégique, traductrice et hyperactive, comme je le disais. Alors, le souci, c'est que mon CV, il est assez fourni, il est assez divers parce que je suis un peu touche à tout et voilà, avec la réalité du pays. La traduction, ça n'a pas forcément marché. On fait un peu de community management, un peu de communication. Encore avec le handicap, je m'ennuyais un peu, donc je suis un peu touche à tout. Maintenant, quand je postule, par exemple, pour un stage ou pour une bourse de capacitation, une fois on m'a répondu qu'on ne pouvait pas m'offrir cette bourse de capacitation parce que, voilà, ou bien un stage parce que je suis... Enfin, j'ai trop de ressources. Voilà, c'est comme écrit dans le mail de retour. Et c'était quelque chose... Enfin, du niveau international, que j'avais fait un fellowship aux États-Unis, ça m'a quand même frustrée.
Oui. C'est-à-dire qu'en gros, vous affichez des expériences très différentes les unes des autres. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Alors, vous êtes quand même très digitale, hein, comme femme, Ninel.
Oui, assez quand même, assez. La réponse qu'ils ont servi dans le mail, c'est on ne peut pas vous offrir cette bourse de capacitation parce qu'apparemment, vous avez plus de ressources et d'autres le méritent. Maintenant, je voulais savoir quand on postule pour un stage, parce qu'à même temps, j'ai pas un travail stable et j'aimerais par exemple faire un stage dans une grosse boîte. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'expérience, mais de petites expériences, n'est pas une limite? Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que le recruteur ne pourrait pas voir dans cette petite expérience-là une incapacité à s'adapter ou à garder un travail longtemps? Du coup, je me demande souvent, ok, je fais comment?
Oui, vous êtes hyperactive, mais vous n'avez pas de problème de stabilité. Ce n'est pas ça votre problème. Vous avez peur qu'on pense ça de vous.
Non.
Marie-Camille Busneau, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Ninel, vous avez 25 ans, donc elle est quand même à l'image de cette génération qui a envie de toucher à tout, de faire plein de choses, d'accumuler des expériences très différentes. Comment ça peut être perçu par les recruteurs, ça?
Mais je dirais que tout dépend de la façon dont vous le présentez. Si vous arrivez à sortir un fil conducteur de vos expériences, si vous arrivez à les tourner de manière très positive, le recruteur, il va comprendre le cheminement qu'il y a derrière ça et il va être rassuré. Ce qu'il faut le rassurer, effectivement, c'est je suis pas partie à chaque fois parce que j'ai renoncé ou parce que c'était trop compliqué ou je me suis embrouillée avec des personnes. Voilà, il faut juste rassurer sur le contexte. Est-ce que c'était un contrat déterminé? Donc j'ai mené à bien le projet et puis après je me suis tournée vers autre chose, ou alors j'ai eu une opportunité dans tel domaine qui vraiment m'attirait depuis un moment. Donc voilà, j'ai voulu tester. Il faut donner du sens à ces changements, en fait. Et à partir du moment où vous donnez du sens, il n'y a pas de souci.
Christelle de Foucault.
Ah, d'accord.
Ah oui, non, je ne peux qu'adhérer à ce que dit Marie-Camille. Dans ce qui ressort, Ninel, c'est que vous avez vraiment un profil qui est extrêmement intéressant. Et justement, il faut que vous partiez du poste et du projet. Si par exemple, vous visez un poste de community manager et un stage de community manager, ce qui est intéressant, c'est de mettre dans votre CV, d'architecturer votre CV pour montrer que tout ce que vous avez fait jusque-là vous permet d'être un super community manager. Je pense notamment à votre connaissance du digital, je pense à votre connaissance des langues. Tout ça peuvent être des atouts. Donc, comme vous l'a dit Marie-Camille, construisez vraiment le fil rouge. Plutôt que dire « j'ai eu telle expérience », c'est de dire « je souhaite être community manager et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de travailler là, là, là et là. Voilà ce que j'ai réussi à acquérir et ce qui me permet aujourd'hui de me présenter devant vous. »
Comme si tout avait été pensé très logiquement, alors qu'en fait, c'est parce que vous êtes bourré de curiosité, mais ce n'est pas un vilain défaut non plus, hein, Ninel. Donc vous allez réécrire votre histoire, en fait, avec une logique implacable.
D'accord, merci.
Merci à vous, Ninel. Très très bonne journée à Yaoundé. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On va donner la parole aussi à des voisins et des voisines qui se sont reconvertis, qui ont changé de voie et qui démontrent que c'est possible.
7 milliards de voisins et la planète se barre.
On va prendre un auditeur en région parisienne. Jean-Denis nous appelle de Champigny-sur-Marne. Bonjour Jean-Denis.
Oui, bonjour, je vous entends bien.
Vous avez une belle histoire, vous avez été kiné pendant 24 ans, c'est bien cela?
Oui, oui.
Kinésithérapeute, hein?
Oui, c'est ça, oui, oui.
Oui, et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, j'ai des défauts, mais je suis honnête. Alors, je me disais, je ne peux pas continuer à être conventionné, ne pas gagner beaucoup. Et puis, avoir des inquiétudes pour ma famille, parce que j'avais 4 enfants.
Oui.
Donc, je me disais comment est-ce que je vais terminer. Je faisais un peu comme Darry Cole qui disait « Hola, hola », tu sais. Et je me disais comment est-ce que ça va terminer. Et j'avais une femme à l'époque qui consommait tout son salaire dans des cours de danse et des choses comme ça. Donc, je me disais toute la famille repose sur moi.
Oui.
Et quand vous faites de la kinésithérapie conventionnelle, j'avais envie de faire des CMU, des couvertures maladies universelles. Des choses comme ça. Et comme j'étais dans Paris 6e, un quartier un peu chic, eh bien, du coup, personne ne faisait les CMU parce que ça rapportait pas. Tous les autres faisaient des dépassements d'honoraires. Mmh. Et du coup, on m'envoyait que les CMU. Et les CMU, vous savez, peut-être que les auditeurs ne savent pas, mais
alors vous étiez...
on les payait directement par la caisse.
Voilà.
Donc, je me suis dit...
Vous aviez finalement, vous étiez attribué une mission assez sociale hein, dans votre métier.
Mais oui,
vous
c'est avez ça que j'aimais bien.
Ce qui est intéressant, vous avez complètement rebondi. Vous faites aujourd'hui de la sonorisation dans des lieux pour des événements, pour de l'événementiel.
Non, j'installe des sonorisations pour les églises.
D'accord. Exclusivement pour des églises. Pour des églises.
Oui, c'est ça, je me suis un peu spécialisé là-dedans.
Ouais.
Et puis, en fait...
Comment vous êtes arrivé à changer complètement de métier, en quelques mots, hein, parce qu'il faut qu'on donne la parole à d'autres auditeurs aussi.
Oui. Parce que j'aimais beaucoup l'électronique, j'étais très passionné par ça.
Oui.
Et en même temps, je me disais, en kinésithérapie, je ne ferai pas de vieux os.
Oui. Donc, vous êtes formé par vous-même, c'est ça? Pendant une dizaine d'années, vous avez exercé les deux métiers en parallèle.
Oui, mais je n'avais pas le choix. Oui,
donc, le soir, sonorisation d'église pour des concerts, etc. Et puis la journée.
Non, ce n'est pas pour des concerts. Non, je me suis mal fait comprendre.
C'est pour la messe. C'est...
Dans les églises, vous avez des colonnes et puis des haut-parleurs comme ça. Et puis, il y a le prêtre ou le pasteur qui parle. Et puis, il faut que les fidèles se fassent entendre. C'est ça que je fais.
D'accord.
Et je ne le démonte pas après. Je le laisse.
D'accord.
Et donc, je me suis formé moi-même. J'ai fabriqué des amplificateurs pendant quelques années. Et puis après, je me suis lancé. Mais il m'arrivait certains jours de soigner 15 malades dans la journée, à domicile et au cabinet, et puis de faire un bisou aux enfants dans leur lit, prendre un morceau de fromage et aller installer des églises jusqu'à 1h du matin. Et le lendemain, j'avais la blouse blanche et la carte vitale.
Et vous avez vendu finalement votre cabinet de kinésithérapie. Et aujourd'hui, vous vivez de ce nouveau métier, sonoriser des églises.
Oui, et ça marche bien, je suis très content.
Bah dis donc, c'est une niche, hein, mais...
Oui, j'ai pu payer les études de mes enfants, les chambres d'étudiants et tout ça. Maintenant que je me suis retrouvé tout seul avec les 4 enfants, et maintenant j'ai pu payer les études, la scolarité et tout ça.
Et vous n'avez jamais douté de la réussite de cette reconversion?
Si, un peu. Parce que par moments, vous savez, c'est un peu fou, parce que j'étais contre, à l'inverse de la sagesse populaire qui tient plus du café du commerce.
Si vous aviez un conseil à donner là, aux auditeurs qui nous écoutent,
C'est quand on est travailleur indépendant, en nom propre, on peut monter une autre entreprise en nom propre sans payer de charges sociales dans la deuxième activité. On paye les charges sociales à l'activité dominante, ce qui permet de monter une entreprise assez facilement et sans trop de risques.
Oui, ça c'est pour la réglementation française. Merci beaucoup Jean-Denis de nous avoir appelé, puis bravo pour ce parcours. Radija nous appelle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour Radija.
Bonjour.
Alors vous êtes reconverti également, vous êtes ingénieur marketing?
Oui, c'est ça, ingénieur marketing, j'ai eu à me reconvertir dans la traduction et l'interprétariat.
Mmh. Pourquoi vous avez changé de métier?
En fait, parce qu'au niveau du marketing et de la communication, je n'avais pas les opportunités que je recherchais.
Oui.
J'étais toujours déçue à chaque fois que je tentais une expérience professionnelle. Et donc, du coup, je me suis dit, il est peut-être temps pour moi de penser à la manière dont je devais m'adapter aux réalités du marché et pourquoi pas tenter le domaine des langues dans lequel je me sens très bien et que j'aime beaucoup. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la traduction, l'interprétariat.
Et qu'est-ce que vous tirez de cette reconversion comme conseil qui pourrait servir aux autres, Karidja?
C'est qu'il ne faut pas avoir peur, parce que pour se reconvertir, il faut toujours prendre des risques. le risque de ne pas se retrouver salarié, c'est mon cas. Mmh. Voilà, j'étais salarié, maintenant je ne le suis plus vraiment.
Ouais.
Et, mais quand même, les avantages que l'on retire par rapport aux inconvénients sont bien meilleurs, en fait. Donc, prenez le temps de bien réfléchir, à ne pas regretter votre décision, et vous renseignez quand même autour de vous, sur ceux qui sont déjà dans le domaine. Et après avoir pris le temps de peser le pour et le contre, quand on se sent prêt, on se lance.
Quand on se sent prêt, on se lance. Oui, c'est ça qui est compliqué, hein, c'est cette phase-là. Merci de nous avoir appelé, Karidja. Marie-Camille Busneau et Christelle de Foucault, qu'est-ce que ça vous inspire, ces témoignages? Et puis, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme ligne de conduite quand on a démarré dans une première voie, d'ailleurs, quel que soit son âge, si on a seulement fait quelques années d'une première expérience, qu'on veut effectuer une vraie reconversion, on commence par quoi quand on se dit « vraiment, j'ai envie de changer ». Christelle de Foucault.
Alors, ce qui est intéressant dans les deux expériences, ce qu'on voit par exemple par rapport à ce qu'a fait Jean-Denis, c'est qu'il n'a pas lâché son premier métier. Donc ça, ça peut être aussi intéressant de se dire j'étudie, j'analyse, je teste, je me lance, mais je garde peut-être une sécurité avec mon métier initial. Ça peut être le choix de certaines personnes quand on a notamment à faire vivre une famille. Donc ça, c'est la première idée. Et dans ce que dit Khadija, ce qui est intéressant aussi, c'est ne pas avoir peur. Accepter de prendre des risques et notamment accepter quand on est en reconversion professionnelle de redémarrer au début. Et ça, c'est pas toujours facile quand on a été un expert dans un premier métier, d'accepter de devenir un débutant dans un deuxième métier.
Marie-Camille Busneau, est-ce qu'il y a un âge idéal pour la reconversion ?
Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on peut se reconvertir à n'importe quel âge. Tout dépend effectivement de la préparation. Je trouvais que le témoignage de Khadija était très bon parce que voilà, elle disait il faut se renseigner sur des gens qui pratiquent le métier, peser le pour le contre, etc. C'est tout à fait ça qu'il faut faire.
Ça veut dire que quand on a déjà cette idée de reconversion, il faut en parler autour de soi.
Absolument.
Y compris pour ne pas tourner en boucle seul avec soi-même.
Oui, parce que en fait, on a une représentation des métiers. Souvent, les représentations qu'on a, c'est soit à travers des films, à travers peut-être son entourage. Et donc, on projette des choses sur des métiers qu'on fantasme un petit peu. Et donc, après, il faut aller confronter ces fantasmes à la réalité et donc aller se renseigner. Et le mieux, c'est d'interviewer des gens qui occupent ces métiers. Voilà. Et voir si y a des choses qui résonnent en nous et qui nous donnent envie ou autre chose, ou peut-être d'autres points qui nous feraient un petit peu, qui nous feraient nous poser des questions et peut-être revoir notre copie.
Quelles actions concrètes on mène quand on se dit, allez, je réfléchis, je me penche sur mon parcours professionnel, que ce soit une histoire de reconversion, que ce soit un démarrage, quelles sont les actions concrètes? Est-ce qu'on démarre avec une feuille blanche? Comment concrètement ça, on s'y prend, Christelle de Foucault?
Alors la feuille blanche, c'est très bien, quel que soit l'endroit où on est dans son parcours, de se dire qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Qu'est-ce que je rêverais de faire? Et de lister tous ces points-là. Et ensuite, donc on part de soi. De nos qualités, ce qu'on appelle les soft skills, de nos compétences, de nos envies, de nos aptitudes. Et puis ensuite, il y a l'autre, l'endroit où l'on va. Et c'est là où il est vraiment essentiel d'étudier ce fameux marché, ces réalités qui vont nous permettre de valider ou d'invalider un projet en fonction de ce qu'on va découvrir.
Oui, tout à fait. Il va y avoir des allers-retours ensuite entre mon projet que j'avais dessiné au départ et puis les retours d'expérience que je peux avoir quand je vais aller interviewer les gens sur ce marché.
On a énormément de questions de jeunes qui ne sont pas satisfaits de leur démarrage, de leur parcours professionnel. Siaka, qui est à Abidjan, nous dit, il a 34 ans, j'ai un BTS en communication d'entreprise, je ne trouve pas de travail, je voudrais me reconvertir dans le bâtiment, je ne sais pas comment faire, par où commencer. Pourtant, quand même, c'est possible à 34 ans avec un BTS en communication d'entreprise, non, de se reconvertir dans le bâtiment. Il y a beaucoup de besoins dans le bâtiment.
Là aussi, peut-être aller étudier, aller sur le terrain. Le meilleur moyen pour se reconvertir, c'est de rentrer en contact avec les hommes. C'est ce que disait tout à l'heure Marie-Camille, c'est d'aller interviewer des gens, d'aller rencontrer des gens qui font ce métier, d'échanger avec eux et de voir quel est leur parcours, comment ils ont fait, comment ils peuvent nous aider, qu'est-ce qu'ils nous conseillent, quelle formation on doit suivre ou non.
C'est-à-dire, je mène ma petite enquête finalement.
C'est être enquêteur. Être chercheur d'emploi, c'est aussi être enquêteur.
Alpha Omar, qui est à Conakry en Guinée, je suis diplômée en aménagement du territoire, urbanisme. J'ai du mal à m'entretenir avec les gens parce que je souffre de bégaiement. Quelle solution pourriez-vous me proposer?
Alors, par rapport à ça, peut-être que du coup, il a développé des facilités au niveau de l'écriture. Et donc, à ce moment-là, il serait peut-être plus judicieux de rentrer en contact avec les gens par l'écrit et d'utiliser les réseaux sociaux pour cela. Rentrer en contact avec les personnes qui travaillent dans les entreprises. Donc, encore une fois, LinkedIn, parce que ça va vous permettre d'écrire et d'avoir les réponses de façon écrite. Et à un moment avant le rendez-vous, préciser qu'on a du mal à s'exprimer.
Jérôme est à Yaoundé, au Cameroun. Il a 20 ans. Après mon master 2 en sciences éco, je veux faire une école de journalisme pour devenir journaliste économique. Bah, c'est super. Master de sciences éco, journalisme économique, c'est quand même super crédible. Comment faire pour se démarquer dans ce domaine et réussir un entretien d'embauche? Moi, je dis qu'il est très bien parti, Jérôme, non?
Alors déjà, il est très bien parti, effectivement. Après, je pense que ce qu'il va falloir qu'il travaille, effectivement, c'est son pitch. Donc, comment se vendre? Pour préparer son pitch, déjà, la première étape, c'était celle dont on parlait tout à l'heure, c'est mieux se connaître. Donc, savoir identifier ses points forts, là où on fait la différence. Là, on va vraiment avoir un impact par rapport aux autres. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui sont disponibles, comme chez Assessors, par exemple. C'est des outils qui permettent d'évaluer la personnalité, les motivations, l'aptitude, pour ressortir les talents naturels. Et donc, ça peut être un premier point. Identifier bien ses points forts et après, travailler son pitch, présenter son expérience en mettant bien en valeur ce qui va faire de nous quelqu'un d'un peu unique.
L'entretien prédictif, ces nouveaux outils, à quoi ça sert, comment ça marche, puisque votre entreprise Assess First, c'est sa spécialité?
Alors en fait, l'idée, c'est d'identifier à travers donc, trois questionnaires, personnalité, motivation, aptitude, le potentiel de réussite d'un candidat sur un job. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comment on peut mesurer ça? En fait, on regarde dans une entreprise sur un métier, ce qui va qualifier en fait les meilleurs collaborateurs sur un poste précis.
Donnez-nous un exemple.
Donc par exemple, je sais pas moi, hôtesse de vente chez BHV, le grand magasin. On va faire passer les questionnaires à toute la population d'hôtesses de vente. On va qualifier leur niveau de performance et leur engagement. Et puis on va regarder en fait statistiquement ce qui va définir les meilleurs, les plus engagés, les plus performants. On construit un modèle à partir de ça et ensuite on compare notre candidat ou notre collaborateur en interne à ce modèle. Et si on a un taux d'adéquation important, il y a de grandes chances que la personne soit en posture de réussite et d'épanouissement ensuite. Voilà.
Christelle Defoucault.
Alors c'est très intéressant comme mode de recrutement parce que justement on lutte contre le fait de rechercher, on dit aux entreprises qu'elles ont tendance à trop rechercher de clones, qu'elles ont tendance à rechercher uniquement des diplômés, qu'elles ont tendance à rechercher des gens qui rentrent pile dans les cases. Avec le recrutement prédictif, ça permet d'ouvrir la porte à tous puisqu'on va se fixer non pas sur leur parcours mais sur leur qualité, leurs soft skills, sur ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent apporter. Donc c'est une nouvelle manière d'ouvrir les entreprises à tous.
Je vous lis une dernière question d'auditeur. Youssouf à Abidjan, il est en thèse de sociologie, il travaille à côté dans la circulation. Alors ça, je ne sais pas bien ce qu'il veut dire, s'il fait la circulation, mais ça ne me plaît pas en tout cas. Ma passion, c'est la recherche. Je ne sais pas si je dois continuer ma thèse parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas de travail. Voilà, ça c'est le cas de pas mal de jeunes qui sont dans des domaines, c'est clair, hein, où c'est pas l'informatique, la sociologie.
Alors, je ne sais pas à quel niveau il est dans sa thèse.
Il est Youssouf, en thèse, donc...
Voilà. Mais c'est peut-être un petit peu dommage de l'abandonner. Après, s'il travaille en parallèle et qu'il peut, entre guillemets, un peu tenir, ça vaut toujours la peine, même s'il ne l'utilise pas tout de suite, dans sa vie. C'est-à-dire que maintenant, la vie fait qu'on aura différents métiers, différents parcours et de multiples vies. Il y a peut-être un moment où sa thèse fera la différence. Et donc, s'il est arrivé jusque-là, moi, personnellement, je lui conseillerais, s'il était un de mes enfants, je lui conseillerais d'essayer d'aller jusqu'au bout de sa thèse.
Et pourquoi surtout ne pas associer ensuite une formation dans le digital, par exemple, hein, ça peut être utile, par exemple, pour du marketing. On utilise des outils de la sociologie, non?
Oui, puis il y a de plus en plus d'entreprises qui recrutent, en fait, des doctorants ou des organisations internationales.
Merci en tout cas à toutes les deux, Marie-Camille Busneau, spécialiste du recrutement chez Assess First, Christelle Defoucault, la chaîne du grand jeu de la recherche d'un job sur YouTube et les 50 erreurs à éviter pour trouver un job chez Erol. On se retrouve demain, on parlera du recensement. Combien